Merci. Donc, on posera les questions après.
Oui, voilà. Très bien.
Et
merci.
Donc, tu as déjà introduit Nathalie Breda, donc on va essayer de joindre en visio. Elle est à Nancy. Donc, déjà, il y a eu un colloque il y a 12 ans sur ce thème de l'Institut du développement forestier et de l'INRAE et du projet européen Sylvamed. À cette occasion-là, André Granier et Julien Fiquepron avaient présenté une utilisation de bilejoux pour mesurer les quantités de drainage selon les couverts forestiers sur un dispositif à Massevaux, en Moselle, je crois. Voilà, donc nous avons demandé à Nathalie Breda, qui travaillait déjà sur ce thème-là à cette époque, de nous présenter l'évolution de ce modèle, de cet outil bilejoux, et nous dire le type d'utilisation qui peut en être fait aujourd'hui. Alors, est-ce que Nathalie Breda est en ligne?
Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous.
Très bien, on entend très bien. Bonjour.
Est-ce que vous voyez ma diapositive?
Également.
Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Alors, ma caméra ne fonctionne pas, donc je vous ai mis ma photo de ma petite tête en haut. Là, c'est pas très grave si vous ne me voyez pas. L'essentiel, c'est que vous voyez les diapositives. Donc, je vais effectivement vous parler du modèle de bilan hydrique que nous avons développé à Nancy à l'issue, je dirais, de 50 ans de recherche sur le fonctionnement hydrique des écosystèmes forestiers. Et en particulier, j'ai travaillé avec Gilbert Osnac, qui a été quand même un des pionniers en France sur ces questions de microclimat sous forêt et de flux d'eau. Et au profit de la sécheresse de 1976, eh bien, on s'est engagé dans ces recherches à cette période-là. Et bilejoux est un peu l'outil qui résulte de la synthèse de ces connaissances sur le microclimat et son rôle, sur le fonctionnement hydrique des écosystèmes et des différentes composantes. C'est un projet donc qui est de longue date. Je vais vous refaire un historique très bref et qui mobilise donc une équipe assez importante composée de chercheurs et d'ingénieurs et plus récemment aussi de beaucoup d'informaticiens parce que vous allez voir, on développe l'outil sous forme de service climatique pour différents usagers. Et ceci nécessite beaucoup de financement parce qu'on a besoin de recruter des compétences externes. Et j'ai mis ici quelques logos de partenaires qui nous aident à financer l'évolution et le maintien, la pérennité dans le temps des services que nous proposons. Alors, pourquoi le bilan hydrique et les flux d'eau dans les écosystèmes forestiers? Eh bien, on a énormément de demandes des utilisateurs. Vous êtes un exemple typique hein, de public assez diversifié, mais qui ont des besoins, soit pour des questions relatives à l'impact et à l'adaptation au changement climatique, aux conséquences du climat passé, présent, avec les années particulières qu'on peut vivre et futures, sur le cycle de l'eau, sur le bilan hydrique et carboné, sur la production forestière, et aussi beaucoup de questions sur la santé des forêts en lien avec ces épisodes de sécheresse. On a évoqué hier aussi le flux d'eau qui est restitué par les écosystèmes forestiers au milieu, qui est le flux de drainage et qui donc est le lien entre l'eau de surface et les eaux profondes ou circulantes sous forme d'eau bleue. Et ce flux, en fait, on ne sait pas le mesurer. Donc, on doit l'estimer par modélisation. Et bilejoux a aussi cette vocation de calculer ce flux d'eau restitué au milieu. Vous avez aussi exprimé, tous nos partenaires, beaucoup de besoins de quantification des épisodes de sécheresse. Parce que on a une très mauvaise mémoire de ça et on a toujours besoin de comparer des aléas de sécheresse entre différentes années, entre différentes régions, entre différents types de forêts. Et pour ça, l'outil va proposer un certain nombre d'indicateurs caractérisant cet aléa en durée, en intensité ou en date d'occurrence. Le modèle que nous proposons est un modèle que j'appelle bioclimatique et qui fonctionne au pas de temps quotidien. Et ce pas de temps est important parce qu'il permet d'inclure des mécanismes de régulation par la végétation. On a parlé hier de fonctionnement stomatique et de contrôle de la consommation en eau lorsque le sol se dessèche. Tous ces mécanismes sont inclus dans bilejoux. Un gros travail sur l'interception des pluies aussi, qui est, on l'a vu, quelque chose de spécifique aux écosystèmes forestiers et vraiment de stratégique parce que très, très important en quantité. Et donc le modèle va calculer chaque flux d'eau élémentaire et eh bien on réalise jour par jour le bilan de ce qui entre et ce qui sort de l'écosystème. Alors, un bref mot d'historique. Je ne vais pas vous donner d'équation. On nous a dit de faire quelque chose de simple. Tout est expliqué de toute façon dans les documents que je vais vous indiquer. Au départ, c'est un modèle qu'on a développé pour intégrer des connaissances par la recherche et pour la recherche. Donc, c'est un modèle qui est issu des travaux de ma thèse et qui a été publié dans Ecological Modeling en 1999. Ce modèle, depuis, s'enrichit un peu au fil de l'eau et je fais un peu de pub aussi pour un ouvrage que Patrick Lachassagne avait coordonné en 2016, dans lequel on redécrit les évolutions dans les équations qui permettent de calculer chacun des flux d'eau et qui sont pilotés par les déterminants que nous avons compris grâce à ces recherches et ces observations de terrain de long terme. Il y a eu pour nous un point de bascule en 2003, où à l'occasion d'une sécheresse un peu exceptionnelle, on a eu une sursollicitation de nos partenaires forestiers, santé des forêts, gestionnaires de bassins versants. Et on a dû trouver une solution parce que je n'arrivais plus à répondre à toutes les demandes en exécutant moi-même le modèle pour toutes les sollicitations. Et donc nous avons fait le choix d'entrer dans la dynamique un peu des services climatiques et de proposer à la fois des outils de pédagogie pour expliquer ce que c'est qu'un bilan hydrique et un accompagnement des utilisateurs pour qu'ils puissent s'approprier et exécuter eux-mêmes notre modèle en ligne sur un site web. Donc tout ça, c'est résumé en deux lignes. En vrai, ça constitue un travail très, très particulier et très lourd qui consiste à constituer des fiches pédagogiques, à maintenir une équipe projet qui soit pérenne dans le temps, parce que le propre d'un service, c'est qu'il doit être opérationnel 24 heures sur 24 et ça dans la durée. Organiser des formations, valider des demandes de licence, répondre aux questions des utilisateurs. Tout ça est un vrai travail important, sachant qu'il existe aussi une version du modèle que nous utilisons pour la recherche et pour nos propres travaux et les collaborations scientifiques. Alors aujourd'hui, quels utilisateurs et pour quel type de besoin Biljou peut être exécuté par des usagers divers et variés. On a des utilisateurs qui s'en servent pour la recherche autour des services écosystémiques, en dendrochronologie, sur la santé des forêts, sur les cycles biogéochimiques et les cycles d'éléments minéraux, la sylviculture, l'impact et l'adaptation au changement climatique. On a aussi toute une communauté d'enseignants qui utilisent l'outil comme support pédagogique à des projets pluridisciplinaires et de travaux pratiques en ligne pour les étudiants, des utilisations en gestion forestière pour la surveillance de la santé des forêts. Par contre, nous ne délivrons pas de licence pour des usages à vocation commerciale, en particulier pour les bureaux d'études. Je vous ai fait ici une petite analyse fin 2022, donc sur la répartition des utilisateurs de Biljou. Un tiers des utilisateurs s'en servent pour la recherche et deux tiers pour des applications non scientifiques, éventuellement un petit peu en R&D pour CNPF et ONF. Et ce que j'appelle ici surveillance, c'est les utilisations pour le département santé des forêts. Nous avons aujourd'hui une communauté d'environ 450 utilisateurs qui sont répartis un peu partout dans le monde puisqu'ils sont originaires de 29 pays. Alors les services que nous vous proposons sont disponibles sur un site web. Je vous ai mis ici le QR, le code pour scanner si vous voulez avoir directement accès. Le modèle s'appelle Biljou pour bilan hydrique journalier. Il est disponible en deux langues, français et anglais, et on vous propose trois services et très prochainement un quatrième service. Je vais vous les détailler les uns après les autres. des pages de formation qu'on appelle des pages un peu d'e-learning, que je vais vous détailler. Une partie du site qui permet donc d'exécuter vous-même le modèle en ligne. Et puis, une interface de consultation d'indicateurs de sécheresse que nous avons précalculée sur la France métropolitaine. D'une part, en climat passé, avec l'archive Safran comme données climatiques d'entrée. Donc, c'est disponible aujourd'hui de 1959 à 2019. Et en climat futur, ce qui sera disponible à l'automne prochain. Donc, le premier service qui concerne la partie pédagogique du site, vous avez un ensemble de fiches qui vous décrivent à la fois ce que c'est qu'un bilan hydrique et les caractéristiques des grands flux d'eau, d'une part, et puis des paramètres clés des deux interfaces dont on entend parler depuis deux jours, l'interface entre le couvert et l'atmosphère qui repose sur la phénologie et les indices foliaires des écosystèmes, et d'autre part, tout ce qui est l'interface entre le sol et les racines, et en particulier la caractérisation du réservoir en eau du sol. Nous avons aussi une fiche dédiée au partage des flux entre l'eau verte et l'eau bleue. Là aussi, on en a parlé depuis deux jours. Biljou permet de quantifier séparément l'eau utilisée par l'écosystème et l'eau restituée au milieu. Pour chaque flux, on vous donne des ordres de grandeur, des unités, quelques informations sur la métrologie de ces flux d'eau, c'est-à-dire comment on peut les mesurer, et puis aussi des informations complémentaires pour ceux qui veulent approfondir avec des accès à des PDF d'articles issus de la littérature en langue française ou anglaise. Le deuxième service que nous proposons est donc la possibilité pour les utilisateurs d'exécuter eux-mêmes leur calcul de bilan hydrique pour un peuplement d'intérêt en décrivant et en fournissant au logiciel les caractéristiques du sol et du peuplement qui vous intéressent et en fournissant un fichier de données météo. Voilà la page, les paramètres qu'il faut renseigner, sachant que l'effort que nous faisons pour offrir ce service est de demander le minimum de paramètres à fournir pour caractériser le peuplement. Et c'est l'une des caractéristiques de notre outil, c'est d'être le plus générique possible et le plus simplifié pour que les utilisateurs soient capables de renseigner les informations requises. Donc, une première partie concerne la localisation, ça c'est simple. Les caractéristiques du peuplement minimalistes, qui sont de savoir si on s'intéresse à un couvert sempervirent ou un couvert décidu. Si c'est un couvert décidu, on demande les dates de mise en place des feuilles, donc date de débourrement et date de chute des feuilles, et l'indice foliaire de l'ensemble du couvert végétal. Une caractérisation du sol et des racines, avec la possibilité de renseigner deux ou trois couches de sol, avec les informations dont on a déjà parlé, hein, des caractéristiques du réservoir en eau du sol et de distribution des racines fines, de densité apparente du sol. Et puis, vous avez ici un lien, un utilitaire pour télécharger un fichier de données climatiques que vous allez générer vous-même. Donc, vous devez vous procurer ce fichier météo. Nous ne fournissons pas la météo dans cette partie du site web. Et les données requises sont des données quotidiennes de pluie, température, vitesse du vent, rayonnement global et humidité de l'air, puisque le modèle va calculer les flux d'eau à partir de l'évapotranspiration potentielle qui nécessite ces différentes variables. Lorsque vous avez exécuté votre modèle, on vous propose un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de visualiser directement sur des interfaces graphiques le résultat de vos calculs. Ici, sur le premier graphique en haut, vous avez l'évolution du contenu relatif en eau du sol au cours d'une séquence d'une quinzaine d'années. La courbe en bleu étant la courbe pour chaque année et la courbe rouge, la normale sur l'ensemble de la durée de calcul ici sur une période de 56 ans. Le deuxième graphique vous montre des résultats cette fois-ci annuels. Ici, j'ai choisi de vous figurer le flux d'eau restituée au milieu qu'on appelle drainage et donc qui peut alimenter des modèles hydrologiques ou des calculs de lessivage d'éléments minéraux. Et puis en bas, l'évapotranspiration réelle, donc ce qu'on appelle l'eau verte, du peuplement complet. Et en jaune, l'ETP, l'évapotranspiration potentielle. En haut de votre page de simulation, vous avez un tableau de bord qui vous permet en outre de modifier votre simulation, mais aussi de télécharger vos résultats sous forme de fichiers texte et de vous en servir pour vos propres applications et l'interprétation que vous avez à en faire. La dernière fonctionnalité de cette partie du site va vous permettre de comparer les différentes sécheresses et d'établir ce que j'appelle le hit parade des années sèches pour l'ensemble des années que vous avez proposées dans votre calcul. Et nous vous proposons trois indicateurs qui ont été élaborés de longue date, hein, qui ont été publiés pour certains dès les années 1980 par différents auteurs, y compris américains. Le premier indicateur, c'est la durée du déficit hydrique, c'est-à-dire du manque d'eau dans le sol qui induit une régulation stomatique et donc un impact sur la croissance des arbres, sur leur stockage de carbone, sur leur fonctionnement écophysiologique global. Vous avez un deuxième indicateur qui est l'intensité du déficit hydrique, qui correspond donc à l'air colorié en rouge sur ce petit graphique au centre, c'est-à-dire quelque chose qui intègre à la fois la durée et l'écart par rapport à ce seuil de déficit hydrique, donc la sévérité de la sécheresse. Et un troisième indicateur qui est la précocité, c'est-à-dire la date à laquelle on passe pour la première fois en dessous du seuil de déficit hydrique dans la saison. Cela vous permet d'identifier quelles sont les années les plus sèches qui peuvent vous intéresser et de revenir à une représentation journalière. Par exemple ici, si on compare l'évolution du contenu en eau du sol entre l'année 76 et l'année 2003, pour cette simulation qui va être un peuplement de chênes dans le Grand Est de la France, eh bien vous voyez, les deux profils étaient relativement similaires, avec un petit décalage dans la recharge en eau en 2003, un peu plus tard en saison. Le troisième service que nous proposons consiste à vous proposer d'accéder à des indicateurs, à ces trois indicateurs de sécheresse que nous avons précalculés pour vous. Et ceci a été développé à la demande d'un certain nombre de partenaires, et en particulier du département de la santé des forêts, qui peut être intéressé de savoir quels ont été les stress récents subis par un écosystème dans lequel ils sont appelés pour constater un problème de santé des arbres. Dans cette partie, nous avons donc calculé sur l'ensemble de la France, nous avons exécuté le modèle Biljou sur l'ensemble de la France, sur les mailles climatiques Safran, donc à 8 km, et nous avons stocké toutes ces données de déficit hydrique calculées jour par jour dans une base de données, et nous avons développé une interface qui permet à l'utilisateur de créer sa requête en fonction de ce qui l'intéresse, par type de couvert, sempervirent ou décidue, le type de réserve utile de sa zone d'intérêt, l'indice foliaire de ses écosystèmes, l'année qui l'intéresse et le type de sécheresse. Je vous parle tout d'abord de ce qui a été réalisé donc sur le climat, sur l'archive de climat passé, donc de climat observé puis modélisé par Météo France. Donc, nous avons exécuté le modèle, comme je l'ai dit, sur l'ensemble de la France, par toutes ces mailles climatiques, mais aussi pour une combinaison de types de sol et de peuplement qui, finalement, peut se résumer sous une forme de combinaison entre cinq types de réserves utiles, deux types fonctionnels déciduels sempervirents et 8 valeurs d'indice foliaire. Et ceci jour par jour de 1959 à 2019. On va vous proposer aussi des valeurs moyennes qu'on va appeler des normales, calculées sur différentes périodes temporelles qui seront au choix de l'utilisateur. Donc, dans cette partie de l'outil, voilà, l'accès se présente sous forme cartographique avec trois types d'indicateurs, donc des indicateurs statistiques qui sont les moyennes trentenaires, ou sur la période qui vous est plus courte que vous pourrez choisir, des indicateurs de sécheresse en valeur absolue et des indicateurs en valeur exprimée en anomalie, c'est-à-dire la valeur d'une année d'intérêt par rapport à la normale trentenaire. Voilà un exemple d'illustration ici pour une valeur statistique, c'est-à-dire une valeur moyenne, sur laquelle j'ai représenté les limites des grandes régions écologiques. C'est une option, une fonctionnalité que vous, qui est mise à votre disposition. Vous pouvez ainsi constater que dans la région qui vous intéresse, quelle est la médiane de la date de début de sécheresse pour un peuplement sempervirent, vivant par exemple, et vous avez à proposer la valeur d'indice foliaire et de réserve utile de votre zone d'intérêt. Une autre fonctionnalité permet de comparer deux cartes et deux indicateurs pour la zone qui vous intéresse. J'ai choisi ici, par exemple, de comparer 2 années pour un même peuplement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, toute la France est recouverte par le peuplement que vous avez choisi, donc un couvert sempervirent vivant d'indice foliaire 6 avec une réserve utile de 100 mm. Et vous avez un utilitaire de localisation qui vous permet, soit par des coordonnées latitude-longitude, ou bien en citant le nom d'une ville, de vous géolocaliser et d'avoir la valeur du déficit hydrique, parce que c'est l'indicateur que j'ai choisi ici, pour comparer la sévérité de la sécheresse pour ce point entre l'année 76 à l'année 2018, par exemple. Une autre fonctionnalité permet de comparer donc la valeur brute d'un indicateur. Ici, je prends un autre exemple, c'est l'intensité du déficit hydrique en 2015 pour un peuplement décidu sur un sol à forte réserve utile, 150 mm. Et vous voyez que la valeur brute renseigne finalement un déficit hydrique pas très sévère, puisque les couleurs sont plutôt dans les bleus que dans les rouges. Par contre, si vous exprimez ça en anomalie, c'est-à-dire par rapport à la date, à l'intensité de déficit hydrique habituellement subie par les différents pixels en France, eh bien vous vous rendez compte que les anomalies peuvent être extrêmement fortes dans certaines régions, en particulier dans le Grand Est. Voilà, je vous dis 2 mots du quatrième service qui sera donc disponible à l'automne prochain. Nous avons réalisé le même genre de base de données, cette fois-ci non plus à partir du climat passé, mais à partir d'un certain nombre de scénarios de climat futur et plus précisément de combinaisons entre des scénarios de forçage radiatif, des modèles climatiques différents et des méthodes de descente d'échelle différentes. L'interface va se présenter un peu différemment puisque vous n'aurez plus accès à des valeurs annuelles qui n'ont pas de sens en climat futur, mais vous aurez toujours à dire quel est le type de situation qui vous intéresse, type fonctionnel, indice foliaire, réserve utile. Et nous allons vous présenter à chaque fois 3 cartes pour cette combinaison de sol et de peuplement qui seront une référence en climat passé, un futur proche vers 2050 et un futur lointain vers 2100. Et vous aurez la possibilité, moyennant une création de requête en ligne, de choisir le modèle climatique et la descente d'échelle associée que nous vous proposons, par exemple pour comparer ici 2 scénarios de forçage radiatif. L'inverse sera possible aussi, c'est-à-dire que pour un seul RCP, on pourrait comparer les incertitudes induites par l'utilisation de 2 modèles climatiques. Pour terminer, je vous livre quelques exemples d'utilisation du modèle par des communautés d'abord non recherche. Je vous ai parlé d'un usage assez régulier en enseignement. Vous avez à droite des rapports de travaux dirigés d'étudiants en BTS forestier à Mirecourt. Vous avez différents comptes rendus du département santé des forêts autour du dépérissement du Douglas ou du dépérissement d'essences feuillues comme le chêne et le hêtre dans les Vosges ou encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un usage très intensif de l'outil par le département santé des forêts. Et en recherche, eh bien vous voyez que le modèle est utilisé par une communauté assez large qui s'intéresse à des contextes pédoclimatique très contrasté. Je vous ai ici illustré des usages par des collègues en contexte méditerranéen, en montagne, en contexte sibérien ou boréal. Voilà, j'ai terminé. Je vous incite donc à vous connecter sur le site de Bijou, à vous auto-former et à rejoindre la communauté d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter, en particulier après les années un peu exceptionnelles qu'on connaît à chaque épisode de sécheresse. Vous avez ici le nombre de licences qui est indiqué sur ce graphique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Nathalie Breda, c'était très clair. Vous restez avec nous pour la période de questions qui interviendra après les deux présentations suivantes. À tout à l'heure. Non?
Oui, je devrais vous quitter à 11 h, vers 11 h pour une séance de soins. Donc voilà, je serai là jusqu'à 11 h.
On peut prendre peut-être alors des questions tout de suite, à chaud? Pour être sûr d'avoir des réponses. Christophe.
Oui, bonjour Nathalie et Bernard. J'ai été frappé par l'importance de l'interception. Et je me demandais si cette eau était perdue pour tout le monde, quel rôle elle joue derrière, sans doute dans l'atténuation des changements de température, par exemple. Comment ça entre dans le modèle, quoi?
Alors, l'interception est un flux très important, en effet. D'une part, parce que c'est de l'eau qui n'atteindra pas le sol, et donc qu'on déduit des précipitations incidentes qu'on peut avoir à l'extérieur de l'écosystème. Pendant la période où le feuillage est mouillé, on introduit un arrêt de la transpiration, parce que lorsque le feuillage est mouillé, la transpiration n'a pas lieu. Le VPD est très élevé, donc l'air est saturé et à ce moment-là, il n'y a pas d'évaporation, d'évapotranspiration. Donc ce processus est important à prendre en compte. Et ce processus, il dépend évidemment de l'évapotranspiration potentielle à ce moment-là. C'est-à-dire que plus l'évapotranspiration est importante, plus la réévaporation de l'eau liquide sur les feuilles va se transformer en vapeur d'eau et repartir dans l'atmosphère, va être rapide. Donc ces fonctions sont assez complexes. Elles prennent en compte évidemment l'intensité de la pluie, l'indice foliaire de l'écosystème, l'évapotranspiration concomitante et le frein à la transpiration pendant que le feuillage est mouillé. Une fois que cette vapeur d'eau repart dans l'atmosphère, eh bien, effectivement, elle contribue à la l'humidification de la masse d'air, mais en général, puisqu'on est sur des épisodes pluvieux, l'air est déjà relativement saturé à ce moment-là. Donc non, l'eau n'est pas perdue pour le cycle de l'eau. Par contre, elle n'en rentre pas dans la recharge du réservoir en eau du sol.
Monsieur. Non, le bouton dessus, plus haut.
Ah, ça parle. Oui, est-ce qu'on a des faits?
Excusez-moi, vous pouvez me présenter parce que comme je ne vous vois pas, ça serait sympa pour moi.
Est-ce qu'on a des prévisions sur la situation dans les Pyrénées-Orientales?
Vous avez
Alors,
entendu.
moi, on n'est pas, mais si vous êtes intéressé par les Pyrénées-Orientales, vous pouvez exécuter vos propres calculs pour vous rendre compte de ce qu'ont été les sécheresses par le passé dans votre région et prochainement ce que pourront être les sécheresses futures, puisque c'est l'idée de la dernière partie du site qu'on vous proposera. Mais si vous voulez exécuter, enfin, connaître pour votre région, il vous suffit de vous procurer des fichiers météo auprès de Météo France dans votre zone d'intérêt et d'exécuter vos calculs pour les forêts qui peuvent être soit des conifères, soit des espèces décidues. Donc, vous pouvez exécuter vos propres calculs pour un point d'intérêt. Et c'est ça l'idée de service que nous proposons. C'est vraiment à chaque utilisateur de pouvoir réaliser ça. Si vous n'avez pas possibilité d'accéder à ces données, vous pouvez consulter par la partie du site web d'indicateurs précalculés Allez-vous localiser dans votre zone d'intérêt en tapant par exemple le nom de la ville la plus proche de votre forêt et consulter par notre base de données les calculs que nous avons réalisés pour vous et pour vous faciliter ce travail.
Oui, bonjour.
Cette partie du site web, c'est vraiment permettre à chacun d'aller regarder dans sa région d'intérêt quelles ont été les intensités, les précocités, les durées de sécheresse et en quoi ces sécheresses ont été anormales par rapport à ce que subissent, par exemple, les Pyrénées-Orientales en moyenne sur 30 ans.
Oui, bonjour, merci beaucoup de cette présentation. Philippe Hans, au CERFOB Occitanie. Alors, pour bien comprendre le lien entre vos graphes déficit hydrique et les conséquences sur le peuplement forestier, est-ce que du moment qu'on est en déficit hydrique, l'arbre déclenche ces phénomènes qu'on a vus hier, fermeture des stomates, voire embolie? Et par rapport à la RU, si on reprend l'exemple, vous aviez une RU de 100 mm en déficit, est-ce que, en fonction de vos courbes, vous dites, ben là, il n'y a plus que 90, 80, 70? Oui, c'est ce lien. Ou est-ce que vous vous dites, voilà nos courbes, et charge à vous, dans des suivis de peuplement, etc., de faire le lien entre la réaction du peuplement et nos courbes? Je ne sais pas si ma question est très claire.
Si, votre question, je comprends votre question parce qu'elle est, elle est extrêmement fréquente. Donc, oui, à partir du moment où le peuplement passe en dessous de ce seuil qu'on appelle seuil de déficit hydrique, les processus de régulation se mettent en place. Donc, qui dit régulation, c'est ce que Nicolas vous a expliqué hier, les stomates se ferment, ça permet d'économiser de l'eau, c'est une bonne idée. Mais par contre, n'oublions pas que la transpiration, ça sert à refroidir le feuillage. Donc, si on ralentit la transpiration, eh bien, on va avoir un échauffement des surfaces. Et donc, en cas de conjugaison avec des canicules, on va avoir plus de problèmes, par exemple. C'est aussi donc un ralentissement de l'entrée de la photosynthèse, d'entrée de CO2 par photosynthèse, puisque ça passe par le même trou stomate. Donc, si on le ferme, eh bien, on ralentit aussi l'entrée de carbone. Donc, on fabrique moins de sucre, on va ralentir la croissance, on va ralentir le stockage de composés de sucre en réserve, on va ralentir la croissance des racines. Et donc, tous ces phénomènes ne sont pas simulés dans le modèle, mais on sait que l'indicateur de sécheresse qu'on vous fournit explique ces différentes, sont en lien avec ces différents processus. Et donc, quand on vous dit avec la réserve utile que vous nous avez donnée, on est en situation de déficit hydrique, on fait ce calcul de dire on a atteint 40 mm sur votre réserve de 100, et donc là, attention, on sait que le peuplement entre en régulation.
Bonjour Nathalie, donc Anicha Rakutorisson, en fait je suis chargée de recherche et développement à l'ONF. Donc d'abord merci beaucoup, de mettre à disposition des gens des résultats de recherche. C'est vraiment important et pour nous stratégique d'être accompagnés par la recherche. J'ai une question, est-ce que le modèle Biljou tient compte en fait des caractéristiques du peuplement forestier, c'est-à-dire est-ce que les bilans hydriques peuvent être nuancés en fonction de la surface terrière, gestion forestière, etc.
Alors oui, mais pas à travers les grandeurs que vous manipulez en tant que gestionnaire forestier et que vous venez de citer, la surface terrière, parce que la surface terrière n'est pas un bon prédicteur de l'indice de surface foliaire. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec l'ONF en particulier depuis... Enfin, j'essaye de travailler avec l'ONF depuis assez longtemps. C'est que, en fait, on montre que la surface terrière est un assez mauvais prédicteur de la surface foliaire du peuplement. Et c'est pour ça que... d'une part, sur le site, on fournit un certain nombre de propositions de valeurs d'indice foliaire et qu'on essaye de vous accompagner dans l'appropriation de ce paramètre et dans sa mesure Je signale que l'ONF est équipé d'un analyseur de couvert qui permet de mesurer cette grandeur et que je forme régulièrement des personnes à l'ONF pour faire cette détermination. Et dans les formations des personnels R&D et des correspondants changement climatique que j'organise cette année, je vais remontrer encore une fois comment utiliser ce capteur. Moi, je considère qu'il est tout à fait sous-utilisé et que vous auriez vraiment un grand intérêt à vous approprier cette grandeur, parce que tous les flux d'eau qui ont été évoqués, y compris dans l'exposé précédent, vous avez vu, c'est pas la taille du buisson qui va permettre de prédire l'interception de la pluie. Et nous, on a pu caractériser tous les flux, on a pu les exprimer en fonction de la dysfolière. Donc c'est vraiment une grandeur stratégique et capitale à déterminer. Je rappelle aussi qu'à l'ONF, dans le réseau René-Cofort, on a pu calculer des indices foliaires à partir des collectes de litière, qui est une méthode extrêmement précise pour mesurer ce paramètre. Voilà, c'est des mesures qui sont abandonnées aujourd'hui, et aujourd'hui que tout le monde regrette. Et donc pour la question de la sylviculture, c'est vraiment des sujets qu'on travaille depuis assez longtemps, hein. La sylviculture, il faut le voir pas seulement comme je coupe des arbres, il faut le voir aussi comme je coupe des feuilles. Et si je coupe des feuilles, alors je vais avoir une réduction de l'indice foliaire qui va être transitoire. Et donc, si vous connaissez ces valeurs d'indice foliaire, vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre calcul de bilan hydrique et simuler l'impact de votre éclaircie sur le bilan en eau et comparer, par exemple, la même parcelle éclaircie et non éclaircie. Et ça, ce sont des applications que je propose dans les formations et dans les TD avec les étudiants pour voir justement, en termes de stratégie d'adaptation, quelles sont les marges de manœuvre que représente la sylviculture pour atténuer l'intensité des sécheresses, voire les éviter, de combien il faut réduire l'indice foliaire pour limiter la durée de la sécheresse ou son intensité. Et on réalise ces travaux en particulier sur les placettes du GIS coopératif de données. Si vous êtes, vous pouvez en discuter avec ma collègue Marion qui est parmi vous aujourd'hui. Marion, tu saisis la balle à la pause café. Merci.
Bien, merci. Comme ça, on va pouvoir arrêter les questions parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup. Et Marion va prendre le relais. On la remercie. Merci Nathalie, et donc longue vie à Biljou.
Je coupe mon micro.